19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir chers amis auditeurs et auditrices, ravi de vous retrouver comme chaque soir de 19h à 20h, nous sommes ensemble pour analyser, commenter et décrypter l'actualité. Et ce soir, au sommaire de cette émission, comme tous les soirs d'ailleurs, nous reviendrons sur l'actualité qui a retenu notre attention aujourd'hui. Nous parlerons, vous savez, de cette fameuse constitution Emmanuel Macron qui propose de réviser la constitution. Ça mérite une double clochette tout ça. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on n'y voit pas clair, c'est un peu flou, il y a des zones d'ombre. Mais on va en parler, on va prendre le temps justement d'en parler. Ensuite, après, on parlera de l'immigration en Europe. François Errant sur l'immigration, abandonnons les vieilles rengaines et prenons la mesure du monde tel qu'il est. Oui, bah finalement, une question qui se pose. On en parlera tout à l'heure. Les punaises, aïe. Punaise. Parce qu'on doit, oui, punaises et les punaises. Quelles punaises. Finalement, est-ce qu'on doit rentrer dans une psychose? Parce que quand on prend le RER, le métro, beaucoup sont rentrés dans la psychose de se dire que dans le RER, franchement, finalement, hein, exactement. Alors bon, la RATP, la SNCF, ils disent aucun cas avéré dans le métro ou dans le train. On en parlera, ça tombe bien tout à l'heure, parce qu'on a un représentant de la CGT qui nous apportera peut-être quelques dernières nouvelles. Allez, et puis vous, au 01 53 48 3000, vous le savez, vous êtes prioritaire. Si vous voulez parler des punaises, vous êtes les bienvenus. Parler des punaises, est-ce que vous craignez le fait de, tout simplement de prendre le métro, le RER, le train, etc., les transports en commun, pour être clair, puisque vous redoutez tout simplement de ces fameuses punaises de lit. Eh bien, parlons-en, parce que ça concerne tout le monde, finalement. Moi, c'est vrai que je me suis posé la question. Je me suis posé la question, à savoir, si je prends les transports en commun, est-ce que finalement, il n'y a pas un risque de... Bon, voilà, ça traverse l'esprit, c'est comme ça. Eh bien, on en parle, 01 53 48 3000. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Mais vous le savez, en toute liberté d'expression.
Les informés. L'interview.
Et j'ai un invité surprise, parce que pour parler de la Constitution, cet invité surprise, vous savez quoi, Radon Koura qui le connaît. Ah, j'ai une invité surprise pour vous. Oui.
Je connais l'invité surprise.
Regardez, vous allez entendre sa voix. Bonjour, je ne dis pas votre nom ni votre prénom. Bonjour.
Bonjour, mon cher Adil Farkan.
Je n'entends pas.
Alors, attendez. Alors, bonjour. Comment ça va ?
Très, très bien, mon cher Adil.
Je crois reconnaître la voix de l'homme à la cravate orange, Michel Taube.
Ah, l'homme à la cravate orange, exactement.
Adil,
la surprise.
Mon cher Adil, d'abord.
C'est la surprise.
Est-ce que je peux commencer par vous féliciter, mon cher Adil ?
Oui, bien sûr, allez-y, je vous en prie, Michel Taube.
Parce que là, vous avez une nouvelle voix dans les informés, franchement, top, quoi.
Oui, c'est vrai, je confirme. Top, Radouane Kourak. C'est vrai.
Radouane Kourak.
Journaliste chez vous, rédacteur en chef auprès d'Opinion Internationale.
C'est la jeunesse,
vous êtes,
c'est l'excellence.
C'est ça, dont vous êtes le fondateur, le directeur fondateur d'Opinion Internationale. Belle surprise, quand même, hein ?
C'est une très belle surprise, toujours très content d'entendre la voix de Michel.
Oui, Michel, l'irremplaçable Michel. Alors, justement, merci d'être avec nous, monsieur l'invité, sur justement, parce que Emmanuel Macron, le chef de l'État, lui, a finalement proposé aujourd'hui de modifications de la Constitution. Franchement, vous êtes à l'initiative de plein d'engagements, y compris quand on revisite la Constitution. Qu'est-ce qu'on doit comprendre d'abord, première question, dans cette histoire de revisiter la Constitution ? C'est un peu flou quand même, Michel Taube.
Alors, en fait, aujourd'hui, c'est les 65 ans de la Constitution de la 5e République. 65 ans, elle a été créée en 1958 et Emmanuel Macron a voulu apporter sa pierre à l'édifice parce que quasiment tous les présidents de la République, sauf François Hollande, ont révisé la Constitution. Nicolas Sarkozy, il avait par exemple changé le nombre de mandats qu'un président de la République peut faire.
Oui.
Donc chacun a contribué. François Hollande n'a pas pu réviser la Constitution et Emmanuel Macron, dès qu'il a été élu en 2017, il l'a proposé et finalement... Il n'a pas réussi à le faire parce qu'il n'a pas réuni les conditions pour réviser la Constitution. Mmh. Donc aujourd'hui, il a fait un grand discours pour dire il faut faire certains progrès dans le fonctionnement de nos institutions sans faire pour autre une révolution. Et il y a une proposition qui, moi, a retenu mon attention, c'est d'élargir la possibilité de faire des référendums sur des questions de société.
Mmh.
Et comme vous le savez, mon cher Adil, parce que moi je suis engagé, mais vous l'êtes aussi, et on l'a été ensemble, j'ai beaucoup milité contre la peine de mort dans le monde.
Oui, merci de le préciser, effectivement.
Voilà, et c'est moi, modestement, qui ai proposé à Jacques Chirac, président de la République en 2006, de réviser la Constitution française, et d'inscrire l'abolition de la peine de mort dans la Constitution. Parce que François Mitterrand l'avait fait abolir en 1981, mais ça n'était pas dans la Constitution. Et le président Chirac a dit, c'est une excellente idée, on va le faire. Et donc, un des derniers gestes de Jacques Chirac, chef de l'État, en février 2007, ça a été de faire réviser la Constitution et de l'inscrire dans le marbre de notre Constitution. Donc, la question que je pose, mon cher Adil, si Emmanuel Macron veut élargir le champ du référendum, c'est-à-dire aux Français, proposer aux Français de voter sur des questions de société, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. L'égalisation du cannabis, sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, sur la peine de mort. Imaginez demain, Marine Le Pen ou un autre de ses affidés propose un référendum sur le rétablissement de la peine de mort. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que ce sera un progrès que de proposer au peuple de trancher une question aussi sensible qui relève d'une question morale, qui est le résultat de siècles de combats pour la faire abolir?
Vous avez raison, c'est vrai, effectivement. Est-ce que c'est une vraie question qui s'impose d'ailleurs, hein? C'est vrai.
Voilà. Et si vous voulez, il y a des pays qui ont la tradition de ce genre de référendum. Par exemple, en Suisse, ils ont l'habitude de consultations référendaires. Mais en France, on n'a pas l'habitude. Il y a eu très peu de référendums. Et souvent, les référendums, même, ils n'ont pas été suivis par les politiques. Moi, j'ai des doutes. Je pense que c'est dangereux. Je pense que le peuple français est un peuple évidemment très mature, très adulte, et on doit pouvoir débattre de tout. Mais quant à trancher des questions qui relèvent vraiment de questions fondamentales, honnêtement, je m'interroge, je n'en suis pas certain. Et au final, moi, je trouverais fort dommage que des politiques, par manque de courage, demande au peuple de trancher une question comme le rétablissement de la peine de mort, à laquelle évidemment je suis totalement hostile en toutes circonstances.
Sauf que là, effectivement, il propose deux modifications de la loi fondamentale, l'IVG par exemple. Vous le savez, je ne vous l'apprends pas. Le chef de l'État a finalement proposé aujourd'hui justement l'idée de faire évoluer tout ça. Vous avez quelque chose qui vous inspire concernant l'IVG?
Bah, écoutez, moi, je suis pour le droit des femmes, évidemment, de disposer de leur corps, et donc je suis favorable, évidemment, à l'interruption volontaire de grossesse, mais je pense que c'est à nos élus de débattre de ces questions. Je pense que c'est à nos élus d'en débattre. Après, est-ce qu'il faut le mettre dans la Constitution, dans la loi fondamentale? J'ai envie de dire que s'il y a un consensus assez large, faisons-le. C'est quand même un droit qui est aujourd'hui remis en question dans beaucoup de pays, à commencer par les États-Unis. Donc s'il faut protéger un droit fondamental que l'on juge extrêmement important, comme effectivement le droit à l'IVG, l'abolition de la peine de mort, l'égalité entre tous, la non-discrimination, eh ben mettons-le dans la Constitution, mais ne permettons pas tous les 5 ans, 10 ans, 20 ans de refaire un référendum qui pourrait remettre en question de tels progrès. Voilà un peu ma doctrine. Après, je comprends aussi qu'on pense que le peuple est souverain et qu'il doit pouvoir trancher toutes les questions qui se posent à lui. Mais je pense que nos politiques sont là pour ça.
Merci, mon cher Michel Taube, le patron donc d'Opinion Internationale, et au plaisir de vous retrouver, vous le savez, tous les mardis à 19h50 pour le Quoi de Neuf. C'est noté.
Absolument.
Désormais.
Merci.
C'est reparti pour une nouvelle saison.
Bonne soirée à toutes.
Merci à vous, mon cher Michel Taube. Justement, le face-à-face, c'est parti tout de suite, et maintenant avec les débatteurs influenceurs.
Les informés. Le face-à-face
avec Rudy Casi, l'élu de Saint-Germain-les-Arpajons. Bonjour Rudy Casi.
Bonjour Adil, bonjour. Comment ça va? Tous les auditeurs. Ça va bien et vous?
Tout va bien, je vous remercie infiniment. À vos côtés, c'est le journaliste justement d'Opinion Internationale, rédacteur en chef, c'est Radouane Kourak. Bonjour Radouane Kourak.
Bonjour Adil.
Comment ça va?
Très bien, vous, est-ce qu'on peut juste prendre une minute pour rendre un hommage à Jean-Pierre Elkabbach, qui est un très grand journaliste qui nous a quittés hier?
Oui.
C'est un homme qui a inspiré beaucoup de journalistes par un style à la fois singulier. Jean-Pierre Elkabbach, tout au long de sa carrière, sa carrière impose le respect et qu'il repose en paix.
Exactement. Un syndicaliste, justement un représentant de la branche CGT. Il est également auteur. C'est Jimmy Dalido. Bonjour Jimmy Dalido.
Bonjour à tous. Bonjour.
Comment ça va bien?
Ben écoutez, ça va tranquillement.
Bon, tout va bien.
Ben écoutez, on fait aller.
Alors justement, parlons de cette constitution. Là, le chef de l'État qui lui décide de réviser pardon, la constitution sur le champ du référendum et le recours au référendum. Sauf qu'il y a évidemment, comme le dit Michel Taube tout à l'heure, il y a des éléments qu'il faut craindre, Radwan Kourak. Est-ce qu'il a raison, Michel ?
Il a totalement raison. Notamment, en fait, c'est la porte ouverte à toutes les propositions farfelues, à toutes les dérives. Finalement, comment on encadre ça ? Demain, on va déterminer le nombre de signataires nécessaires pour la proposition d'un référendum. Mais finalement, si demain on dit que c'est 2 millions de personnes, qu'il faut réunir par exemple 2 millions de personnes, si 2 millions de personnes ont envie de se réunir autour d'un projet totalement farfelu, par exemple le mariage avec les pingouins, c'est un exemple. Évidemment, je fais de l'humour, c'est ironique. Ça n'arrivera pas. Comment on fait pour contrecarrer ça ? Michel l'a rappelé, il y a un très bon exemple, c'est la Suisse. La Suisse, depuis de nombreuses années, pose des questions, de réelles questions de société sur l'euro, sur la fin de vie. La Suisse est un très bon système. Vrai. Or, le système suisse est différent pour une seule raison. La Suisse est un tout petit pays à côté de la France. Tout petit par le nombre d'habitants. C'est un grand pays par l'histoire, mais tout petit par le nombre d'habitants. C'est intéressant de s'inspirer de nos voisins suisses en essayant d'adapter ça à notre système.
Faut-il s'inspirer des voisins suisses, mais surtout que ce qu'on doit penser, évidemment, de cette initiative du chef de l'État ? Rediquez-vous, justement, l'élu.
Moi, je pense que la question elle se pose aussi par rapport aux projets de loi en fait qui peuvent être portés par un président, pas uniquement sur l'immuabilité et l'intangibilité de la Constitution au regard aussi de ce qu'on peut constitutionnaliser. Je pense que ça, comme disait Michel Taube, je pense que c'est quelque chose qui doit se trancher avec les élus et puis en discussion éventuellement même avec les citoyens. Mais par exemple, quand on prend le cas des différents projets de loi que le président de la République a fait passer, par exemple sur via les 49.3 par exemple, sur la réforme des retraites ou sur d'autres projets de loi qui auraient pu peut-être là nécessiter un référendum. Pourquoi ? Parce que ce projet de réforme des retraites était totalement impopulaire, il battait tous les records en termes de rejet statistique de la population, et je dis pas qu'il y avait pas un intérêt à réformer éventuellement, mais en tout cas peut-être vu la crispation autour de ce projet de loi et la vindicte populaire, il y avait peut-être nécessité de trancher par un référendum. Sauf que
risque, comme dit Michel Taube, le risque est énorme, hein.
Ben en fait, les voies et recours pour saisir le référendum ne prévoient pas que le référendum puisse être réalisé sur des bases, par exemple, de projets de loi tels que celui de la réforme des retraites. Voilà, c'est uniquement sur tout ce qui est budgétaire, etc. Et moi, je pense que quand le président...
Les projets de loi budgétaires.
Ah oui. Et quand Emmanuel Macron en parle tout à l'heure, je pense qu'il dresse quelque chose d'assez large, c'est-à-dire en fait comment réussir à trouver le consensus sur des projets de réforme sur le référendum, mais aussi de trouver aussi une continuité pour pas en fait que par exemple admettons le référendum peut être saisi par exemple peut-être une réforme sur le RIP. Et que la population peut se prononcer, et que 6 mois, 1 an plus tard, le législateur revient sur le. Il y a aussi ça en fait dans les questions qui sont posées par Emmanuel Macron. Mais moi, ce que je pense, c'est que de toute façon, si on veut véritablement gouverner le pays, alors avec une alternance qui se fait tous les 5 ans, le président peut pas se représenter au bout de 2 mandats. Là, par exemple, on se demande si Macron dirige encore le pays parce qu'il y a des luttes maintenant à l'intérieur pour pouvoir prendre la suite. Est-ce qu'il faut pas trouver un autre outil pour pouvoir continuer à garder une dominance entre guillemets comme le faisait par exemple le général de Gaulle qui a utilisé le référendum 3 fois, il en a 2 fois oui et 1 fois non. C'est ça aussi, ça légitime le pouvoir, celui du président, et je pense qu'il faut pas en avoir peur. Et avec le référendum de 2005 qui a été un vrai non, il y a eu maintenant une forme de traumatisme, et je pense que c'est ces questions-là qui se posent, c'est-à-dire la légitimité de l'incarnation du pouvoir par le référendum.
On marque une pause, on se retrouve et je donnerai évidemment la parole à Jimmy Dalidou parce que la pause s'impose là justement et on continue de parler de ce fameux
beaucoup de mots aujourd'hui.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Et Les Informés, vous le savez, c'est avec Rudy Cazy, l'élu de Saint-Germain-les-Arpajon, avec le représentant de la syndicat CGT, du syndicat CGT, mais également auteur, Jimmy Dalidou, et enfin le journaliste, rédacteur en chef de Opinion Internationale, Radwan Kourak. Messieurs, je donne la parole tout de suite à Jimmy Dalidou, concernant...
Mais écoutez, c'est un petit peu de foutage de gueule, parce que Monsieur Macron veut demander l'avis du peuple après avoir tout détruit. Vous voyez, Alors monsieur a passé depuis le début de son mandat, il a passé son temps à détruire les conquêtes sociales de France, à détruire les âmes françaises, à détruire les conditions d'existence des Français. Et une fois qu'il a tout détruit, et alors que actuellement les Français, là on est le 4, la majorité des Français sont déjà dans le rouge, ils sont déjà dans le découvert, ils sont en train de se poser la question de comment ils vont faire pour finir la fin du mois. Ils sont pressés que la fin du mois arrive parce qu'ils ont payé leur loyer, ils ont plus de thunes. Et une fois que ce monsieur a tout détruit, il veut demander leur avis. Je pense que c'est un peu trop tard. Deuxième chose, je pense que révision constitutionnelle cache autre chose. On est à 4 ans des prochaines élections présidentielles. Ils ont très bien compris, de par les résultats des dernières élections, que le pouvoir non seulement n'est pas légitime, que ceux qui sont élus, de par le taux d'abstention, de toute façon, n'ont pas été légitimes et ne seront pas légitimes, parce que les Français n'iront pas au vote tant qu'ils n'auront pas un véritable candidat qui véritablement représente la France cosmopolite. Ils n'iront pas au vote. Et donc, je pense qu'il va y avoir une révision constitutionnelle, possiblement, parce qu'il ne va pas tout décider tout seul, mais que derrière ces grandes lignes, il va cacher autre chose. N'oubliez pas qu'il y a des articles dans la Constitution qui sont assez dangereux. Il ne faut pas qu'il y touche, notamment le fait de donner tout le pouvoir au président de la République dans certaines situations, etc., etc. Je pense qu'il faut que le peuple travailleur soit véritablement aux aguets. Parce que, excuse-moi de parler franchement, mais un monsieur qui a passé son temps à bosser pour les multinationales et la grande finance mondialisée, franchement, je lui ferai pas confiance. Troisième chose, la Constitution.
Il y va fort.
Moi, ce qui me gêne, vous voyez, il y a une contradiction entre deux aspects. Premier aspect de la contradiction, de mettre en avant avec des grandes paroles politiques, je veux réviser la Constitution, je veux donner la parole aux Français. Et deuxième aspect de la contradiction, d'avoir pulvérisé les Français à coup de 49-3. Je pense que la modification de la Constitution, là, actuellement, de par les conditions objectives, c'est une mauvaise idée. Elle doit rester telle qu'elle. Sauf s'il y a modification constitutionnelle, c'est que cette modification doit être corrélative d'un changement profond de notre mode de production. Et dans lequel le peuple travailleur de France aurait un véritable rôle d'initiative.
Alors, ce que dit Dimitri Dalidou, peut être intéressant, parce que derrière, en filigrane, il nous laisse entendre, Jimmy Dalidou, que potentiellement, l'idée du chef de l'État, Emmanuel Macron, de changer la Constitution, c'est peut-être aussi l'horizon... vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça vous fait sourire, donc vous avez compris.
Oui, je crois avoir compris l'horizon 2027.
Oui.
Ouais.
Bah oui.
C'est
ce que laisse entendre Jimmy Dalidou.
Oui, non, mais après.
Il ne le dit pas clairement, mais c'est ça.
Il prépare le terrain pour ses petits copains du Parti Horizon. Il sait être assez clair dans ses propos. Franchement, c'est un parti frère de Renaissance. Et il prépare le terrain pour ses copains pour 2027.
Ah oui, alors après, par rapport à Horizon, je pense que Adil faisait plus référence à lui-même, parce que, je pense Édouard Philippe et Emmanuel Macron, sur le plan politique, c'est pas la grande entente. À un moment donné, il lui reprochait d'être sorti du bois un peu trop tôt. Je sais pas successeur Emmanuel Macron pense, mais
il lui a fait une petite passe décisive à Mayotte. Il lui a dit Édouard Philippe ferait un bon candidat.
Ouais, mais c'est par rapport à la manière dont Darmanin il lui
met un cadeau empoisonné.
Normalement, ça c'est au peuple français de choisir s'il est le bon candidat ou pas. Oui, c'est pas à monsieur Macron de décider.
Il a le droit de penser à sa succession, mais effectivement, au bout du compte. Mais en tout cas, pour répondre plus sur le fond, c'est vrai que la manière dont Emmanuel Macron a abordé la question, c'était plus au niveau du référendum. Mais quand on a entendu Richard Ferrand il y a quelques mois, jeter un petit peu comme ça sur.
Lorsqu'il était encore le président de l'Assemblée nationale.
Non, c'est tout récent, avant l'été.
Il avait fait une petite sortie.
Quelle serait l'utilité de modifier, d'étendre entre guillemets un référendum, des possibilités de référendum qui objectivement existé déjà et qui ont jamais été utilisés.
Mais moi, je suis pas d'accord avec mes deux camarades. Je pense qu'Emmanuel Macron, pour le coup, se comporte vraiment, et je l'avais déjà dit, comme un enfant capricieux qui aurait ses cadeaux de Noël et qui a fait le tour de ses jouets, qui en a marre et qui ne pense pas à la suite. Il pense à ses intérêts à lui. Je pense que si Macron prépare 2027, c'est pour lui, pour personne d'autre. Si Macron pouvait faire un troisième mandat, être candidat à un troisième mandat, il le serait. Moi, je pense qu'Édouard Philippe, Darmanin, Bruno Le Maire, c'est le cadet des soucis d'Emmanuel Macron.
Moi, je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense que, c'est une question qui peut exister, mais je pense que, objectivement, il sait qu'il ne va pas pouvoir se représenter, évidemment, par rapport à la contrainte constitutionnelle. Donc, soit il y a la petite idée, la petite musique qui se joue, qui aurait éventuellement une possibilité qu'il puisse se représenter en fonction d'une modification de la Constitution, ou alors il se dit que changer les voies et moyens de recourir au référendum, voire même une modification du RIP, ce serait peut-être une forme de legs. Moi, je pense qu'il y a ça. Il y a toujours une dimension quand même assez personnifiée. Il y a un hubris quand même, hein, de se dire, bon voilà, quelles vont être les grandes réformes qui auront marqué mes deux quinquennats. Je pense qu'il y a aussi l'envie de s'inscrire aussi dans une immuabilité aussi, en laissant ce legs, soi-disant, aux générations futures, d'avoir permis à ce que le référendum ne soit plus une tare, ne soit plus une peur pour les présidents de la République, pour une façon de pouvoir y recourir sans crisper la population et revivre le
juste un truc. Il faut espérer que M. Macron, effectivement, n'envisage pas une possibilité de troisième mandat, parce que l'objectif serait peut-être, je parle au conditionnel, serait de déclencher une possibilité via révision constitutionnelle de se représenter une troisième fois, ce qui générerait un désastre économique, social, politique, parce que les gens ne l'accepteront pas, ils se mettront en mouvement. De fait, ils déclencheraient l'article, je crois, 22, qui donnerait tout le pouvoir au président de la République et instaurerait un état particulier en France, sachant qu'on est sur un terrain assez glissant, de par le fait qu'une certaine partie de la population, je parle notamment des musulmans, sont déjà pris comme bouc émissaire, et ce serait la pire des choses pour la France, parce que le bouc émissaire serait déjà choisi. L'état d'urgence, un état social serait instauré dans lequel un homme aurait tous les pouvoirs et dans lequel, et je vous rappellerai que ce serait corrélatif d'autres réformes, notamment la réforme de la PJ, qui fait que la réforme, la PJ va devenir une instance totalement inféodée au préfet. Ouais. Et il va devenir une forme de milice du capital au service du préfet. Tout ça, c'est très dangereux.
Mais moi, je pense qu'on est peut-être un petit peu dans la politique fiction. Hein. Je suis pas sûr. Je parle
c'est factuel.
Je parle sur l'état gendarme. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les deux quinquennats d'Emmanuel Macron, je trouve quand même qu'il y a eu un prisme assez sécuritaire, avec par exemple l'augmentation de la loi de fichage, l'histoire des drones sur Paris qui a été rejetée par le Conseil d'État, etc. Je trouve quand même il y a une petite musique sur le tout sécuritaire quand même qui s'est jouée et qui est pas forcément très rassurante.
C'est la musique du capital.
Mais je pense qu'il.
C'est la musique du capital.
La cloche. mais je pense qu'on arrive à épuisement et je crois pas qu'Emmanuel Macron réussira. Enfin si c'était dans sa pensée. Par contre je pense qu'il veut vraiment léguer quelque chose. Du genre j'ai réussi à faire ça. Je sais pas comme François Hollande qui avait fait le mariage pour tous ou d'autres choses, etc.
Mais vu qu'on est dans la politique fiction.
Et on passe aux punaises.
Vu qu'on parle de politique fiction, que dit réellement la Constitution? Car il y a une réelle crainte aujourd'hui. Est-ce que Macron n'est pas autorisé à faire deux mandats consécutifs?
Oui.
Ou Macron est limité à deux mandats tout court? Est-ce qu'il y a une possibilité que Macron revienne en 2032, après la présidentielle de 2027?
Ça, c'est deux mandats consécutifs, M. Sarkozy avait essayé.
Mais Sarkozy a fait un seul mandat.
C'est deux mandats consécutifs.
Il y a une vraie question, on s'adresse aux constitutionnalistes. Est-ce que Emmanuel Macron peut faire deux mandats?
On s'est jamais 2010, retrouvé dans le même cas de
2017-2027, faire une pause de 2027 à 2032 et revenir en 2032 comme Vladimir Poutine l'avait fait avec Dmitri Medvedev en Russie.
Ouais, bon, mais je pense pas qu'on puisse mettre sur le même plan Emmanuel Macron et Vladimir Poutine.
En
termes de maîtrise de l'appareil politique, on n'en est pas à ce niveau-là. Mais par contre, oui, c'est des questions qui peuvent se poser, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore été confronté à ce cas de figure. Mais et puis après le temps politique, 5 ans. Regardez, Nicolas Sarkozy était revenu aux primaires en 2016. enfin voilà, il a perdu avec des résultats assez étonnants pour l'époque, ce qui veut dire que 5 ans, ça peut véritablement en fait vous déclasser sur le plan politique.
Emmanuel Macron n'aura que
43 ans. Allez, faut qu'on avance, monsieur. On doit avancer, les 19h30, pile poil, 19h31 même d'ailleurs. Punaise ou pas punaise, parce que c'est la question qu'on se pose. Sauf que là, la France, on a l'impression qu'elle est gagnée quand même par une espèce de psychose. Figurez-vous qu'une photo qui a été postée par sur les réseaux sociaux, justement, et Twitter et compagnie, ça c'est la RATP, vous savez quoi, elle a posté justement enfin on voit en tout cas une punaise ou pas, mais en tout cas un insecte non identifié dans la cabine d'ARB. Alors bon, la SNCF qui partage l'exploitation de la ligne assure qu'il ne s'agit pas d'une punaise de lit, sauf que sur les réseaux sociaux, et ben ça crée une psychose. Les amis, est-ce qu'on doit, franchement, on est en plein dedans pour se poser la question, cette histoire de punaise, on en parle depuis maintenant plus d'une semaine. Jimmy Dalidou, psychose, ouais, alors, ou pas psychose au sein de des transports en commun.
Alors,
l'inquiétude gagne le personnel.
Oui,
mais
non, mais d'abord,
vous,
je pense que c'est ça, les punaises de lit.
01-53-48-3000, c'est un véritable problème. Si vous voulez venir en parler.
01-53-48-3000, les informés vous donnent la parole.
Jimmy Dalidou.
Ouais, juste pour info, lorsqu'un train, avant qu'il circule entre deux gares, avant qu'il circule sur les voies ferrées, il passe par l'étape matérielle, les centres de maintenance, etc. Bon, les collègues qui sont au matériel, que je connais, ont leur procédure. Et eux, quand ils réparent ou ils font de la maintenance sur un train, avant de faire sortir un train de l'atelier, ils ont tout un tas de process à finaliser avant que le train puisse circuler. Et c'est pas nouveau, malheureusement, je vais vous dire, c'est pas nouveau. Et les collègues du matériel avaient déjà tiré la sonnette d'alarme sur le fait que... Oui, bien sûr, ils avaient posé... Vous savez, les syndicats, on a des process qu'on appelle droit d'alerte, par exemple, droit d'alerte qu'on pose souvent. Moi, dernièrement, j'en ai encore posé un pour une collègue pour un autre sujet, bref. Et ça a été... ces procédures ont été utilisées par les syndicalistes et les travailleurs dans le matériel et qui avaient alerté sur le fait que le matériel est vieillissant, que le matériel doit être renouvelé,
sauf
qu'il y a un problème de maintenance, etc.
Depuis quelques jours, on voit l'arrivée des images sur les réseaux sociaux.
Ça, c'est la première chose. Donc deuxième chose, donc on se retrouve avec des trains qui circulent. Effectivement, c'est pas seulement que les punaises. Hein. C'est un problème de, il y a beaucoup de problèmes dans les trains. Et oui, vous avez des trains qui sont parfois
des rats.
Bien sûr, ça existe. Ce qui nous gêne, et nous, qu'est-ce qu'on avait dit, les syndicalistes? On avait dit, il est
des rats ou des souris plutôt.
On avait dit, c'est inadmissible que des Français payent des impôts, et dans les impôts qu'ils payent, ben il y a une partie qui sont injectées pour qu'il y ait des transports convenables et voilà, confortables et convenables, et c'est absolument inadmissible qu'il n'y ait pas d'intervention. Maintenant, sur les punaises de lit, alors encore une fois, il faut revenir sur le jeu des médias aussi, qui utilisent ce facteur-là. Peut-être que ils savent très bien que ça va générer une forme d'hystérie, une panique, parce que c'est vrai que si on ramène des punaises chez nous, c'est le bordel. Moi, j'ai un ami qui l'a eu, c'est un vrai bordel, c'est compliqué.
Ça coûte très cher.
Ça sème de la peur. Et vous savez très bien que le gouvernement, il aime bien que la population a peur. Il aime bien quand il a peur. Donc là, le facteur médiatique, il fait aussi. Mais en même temps, ça, c'est pas nouveau, vous voyez. Donc il faut intervenir, mais il fallait intervenir en amont. Donc je pense qu'il faudrait placer ça sous le signe de... Vous savez, c'est un peu comme les facteurs psychosociaux. Vous voyez, quand on dit les travailleurs vont pas et que les travailleurs vont pas bien, ils sont stressés, alors, angoissés, on n'intervient jamais. Il faut intervenir en amont.
Qui déclenche l'inquiétude, la psychose, on continue d'en parler. On marque la dernière pause pub, et pause tout court, pardon, et on se retrouve avec Rudy Casi et son avis, mais également aussi Radon Kourak. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Et les informés, vous le savez, à 19h40 avec Rudy Casi, Radouane Kourak, Jimmy Dalidou. Je vais donner la parole avant de retrouver et d'annoncer un événement pour demain qui se tient. C'est évidemment la troisième édition des rencontres de la diplomatie culinaire. On en parlera avec Naïma Sifer qui justement incarne cette association. Rudy Casi,
que je salue au passage.
Que vous saluez puisque vous connaissez. Rudy Casi et Radouane Kourak sur les punaises et la psychose. Et la psychose. Surtout
franchement,
la psychose. Et l'inquiétude.
Ouais, alors sur l'inquiétude, je peux comprendre effectivement que les Français soient inquiets, parce qu'il y a une vraie recrudescence, il y a une vraie augmentation des punaises de lit. Moi-même, dans mon cercle familial, dans Paris Intramuros, j'ai des personnes qui ont été très très touchées, qui ont dû se débarrasser d'un certain nombre de meubles, etc. Maintenant, sur la psychose,
ça pousse à...
Je crois, moi-même, j'en ai été victime, je crois. Mais enfin, bref, parce qu'on ne sait pas trop, des fois, si c'est des piqûres de moustiques et tout.
Et puis,
ça prend dans le dos, à des endroits où les moustiques ne vous piquent pas forcément. Mais en tout cas, sur la psychose, en même temps, je comprends les Français, en même temps, je dis, voilà, calmons-nous, ne cédons pas à la psychose particulièrement, notamment ce qui se passe dans les transports en commun. J'ai entendu le témoignage de spécialistes qui disent en fait que dans les transports en commun, il y a moins de chances de se faire piquer. Pourquoi ? Parce que les punaises de lit agissent surtout le soir, la nuit. C'est pour ça qu'on dit les punaises de lit. C'est parce qu'elles se cachent dans le lit, ou pas loin de chez vous, en fait, dans des coins, etc., des petits recoins, voire même dans les lits en dessous du matelas. Et c'est à ce moment-là qu'ils sortent, parce qu'ils sentent votre chaleur et le CO2 que vous dégagez. Dans les transports en commun, vu le passage, vu le peu de temps qu'on y passe, il y a moins de chances de se faire piquer. Je dis pas qu'il y en a pas, mais c'est plutôt le risque d'en ramener chez soi lorsque la punaise va avoir la capacité de monter dans le sac, etc. Voilà. Donc après, il y a des conseils qui sont donnés de vider les sacs, de secouer les vêtements quand on rentre chez soi, ou de les laver à 60 degrés, ou bien de les mettre dans un congélateur, etc. Mais voilà, psycho, je peux comprendre, mais ne cédons pas. Voilà, parce que il faut quand même garder.
Et attention, moi je précise une chose, puisqu'on a un syndicaliste, punaise de lit, aucun cas avéré n'a été constaté, assure la RATP. Radon Courage. Finalement.
Alors les punaises de lit, c'est une réelle problématique de santé publique, mais mes camarades l'ont souligné. Mais Rudy, tu parlais de psychose, on est en plein dedans. Moi, tout à l'heure, j'ai pris le métro, mais moi, je me suis tenu aux barres de métro en pensant que s'il y avait des punaises de lit, je les apercevrais sur la barre de métro et non dans les banquettes des sièges.
Ah, clochette, c'est énorme.
Là, on nage en absurdie. Ça me rappelle les débuts du Covid en France, où on disait qu'il fallait laver ses courses. Moi, j'ai le souvenir ma mère m'a surpris dans la cuisine en train de laver une bouteille de lait. Elle me dit, tu fais quoi? Je lui dis,
à l'eau de Javel.
À l'eau de Javel. Je lui dis, mais tu fais quoi? Je dis, c'est Édouard Philippe, il a dit de laver les bouteilles de lait. Et là, c'est la même chose. Là, les recommandations sont les suivantes. On dit que le soleil tue les punaises de lit. Excusez-moi, on arrive en octobre, on va être en novembre dans un mois. Je vois pas les gens se mettre au soleil pour tuer les punaises de lit. Et pourtant, c'est les recommandations officielles, Rudy. Ouais.
C'est la chaleur qui tue les punaises de lit. Après, le soleil, vous savez, il peut très bien faire beau et pas chaud, quoi.
Quoi qu'il en soit, c'est un véritable fléau. Et les punaises de lit, c'est un réel problème à la fois de santé publique, mais c'est aussi un problème financier. Exactement. Car une intervention d'une heure, ça coûte 225 euros en moyenne. Vous vous rendez compte, 225 euros en moyenne. Ouais. La personne qui a le domicile infesté de punaises de lit, elle est contrainte de se débarrasser de tous ses meubles et même de son matelas. C'est un véritable fléau qui touche notre pays. C'est un problème de santé publique.
Ne pas succomber à la psychose, effectivement. S'il vous plaît, 19h43. Et on a réussi à avoir Naïma Assifer, justement. Bonjour Naïma Assifer.
Oui, bonjour.
Bonjour Naïma.
Merci d'être avec nous, Naïma Assifer, tous les débatteurs influenceurs, dont un que vous connaissez bien, Rudy Kazi, qui vous salue chaleureusement. Alors Naïma Assifer, vous portez cette édition de la rencontre de la diplomatie culinaire depuis le début. D'ailleurs, on vous accompagne depuis le début.
Exactement.
Voilà,
la première
absolument.
Fois, c'est vous.
Et vous étiez venu en parler. C'est la troisième édition et ça se passe le 5 demain et le 6 octobre. Alors parlez-nous-en justement, à quoi s'attendre durant ces deux jours de cette troisième édition des rencontres de la diplomatie culinaire.
Eh bien, écoutez, Adil, cette année, encore une fois, ce sera sous le signe de la solidarité, donc renforcée, parce qu'il y a eu le séisme au Maroc. Et du coup, on a décidé de faire un gala caritatif en plus. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui se sont manifestés pour offrir des tableaux d'art de grande valeur, des stylistes, notamment Ali Drissi, qui a offert une magnifique robe en dentelle pour la vente aux enchères qui aura lieu vendredi soir pendant le gala. Sinon, ce sera deux jours festifs à l'hôtel de Renaissance La Défense, avec des stands, des produits artisanaux, donc de France, côté France et côté Maroc. On aura beaucoup de shows culinaires, on a beaucoup de chefs marocains et français qui vont se rencontrer autour d'un show culinaire, donc demain sur le parvis de La Défense, avec une fashion show en plus, un défilé qui sera devant l'Arche de La Défense. Donc, on invite...
Ça donne envie tout ça. Hein. À quelle heure?
Voilà. À 17h sur le parvis de La Défense, on a pratiquement fait complet. Pour pas dire on est complet.
Oui.
Voilà, ça va être un très bel événement, festif et en même temps sous le signe de la solidarité.
Moi, j'y serai en tout cas.
Vous y serez, vous réduquez. Bon, en tout cas, c'est un bel événement. Donc, on peut s'y rendre demain à La Défense à partir de 17h, hein, c'est ça?
À partir de 17h jusqu'à 23h30 minuit. Voilà, ce sera vraiment. Et on a aussi un buffet solidaire.
Et on peut dire aussi
qu'est-ce que c'est qu'un buffet solidaire ? C'est quoi ?
Ah ben alors les chefs ont cuisiné et ont proposé un buffet. Il y a à peu près 150 places. Premier arrivé, premier servi, évidemment. On a mis une petite somme et comme ça permettra aussi de rajouter des fonds pour faire l'action Les Chefs du Cœur qu'on a lancé au mois d'octobre pour justement aller cuisiner dans les orphelinats et pour les enfants victimes du séisme.
Merci Naïma Siffer d'avoir été avec nous donc pour cette troisième édition de la diplomation et bravo effectivement
pour cette
bravo
édition.
Ça dure et elle est là. Merci. Et ça tient.
Et puis on peut dire que ça célèbre aussi la culture, la convergence culturelle sur l'aspect culinaire entre la France et la rive africaine et je trouve que c'est une excellente initiative portée par Naïma Siffer.
Pour découvrir un pays, pour découvrir sa culture, il faut manger ses plats, c'est dans les plats que l'on retrouve la culture des pays.
C'est ça qu'on apprend les pays.
C'est ça, absolument. Mais merci Naïma et bon courage pour demain et après-demain.
Merci à vous, merci beaucoup.
Merci.
Bon courage.
19h45, messieurs.
Salut.
Nous allons, avant de retrouver le Quoi de Neuf, nous allons juste parler, parce que j'aimerais qu'on en parle, François Héran qui dit l'immigration, abandonne les vieilles rengaines et prenons la mesure du monde tel qu'il est. Vous êtes d'accord avec cette phrase, Dimi Dalidou ?
Bah, disons que le monde tel qu'il est, c'est le monde, si vous voulez, si on veut, cette question de l'immigration ne se traite pas en réprimant les pauvres personnes à la frontière. Et je suis persuadé que pour lutter contre cette immigration, il faut d'abord développer la lutte anti-impérialiste. Je rappellerai que la plupart des émigrés fuient des pays qui sont en guerre, qui sont dans une situation de désastre économique, social. C'est un état de chaos qui a été généré par les différentes interventions militaires et les différents process usuriers à l'initiative des pays impérialistes. Donc si on veut régler le problème, il faut d'abord, oui, observer le monde tel qu'il est, c'est-à-dire un monde qui n'est plus unipolaire mais multipolaire, avec deux blocs principaux qui sont en train de se dessiner. Et il faut développer la lutte anti-impérialiste, parce que c'est la lutte anti-impérialiste qui fait qu'on va pouvoir résorber le problème, trouver une solution.
Rudy Kazi.
Moi, je pense que ces questions sont énormément abordées en ce moment, mais parce que il y a quand même une forme d'instrumentalisation politique. Faut voir les choses en face. Ça profite à un certain camp politique qui le martèle depuis des années. Et les chiffres qui sont en augmentation, mais de façon assez modérée quand même, en tout cas leur donne entre guillemets la force de pouvoir en parler dans les médias. Mais je rappelle quand même que la France est 13e au rang européen des nations qui accueillent des migrants. Ça fait à peu près 5% de tous les migrants européens, enfin qui viennent en Europe. Donc c'est pas, comment dire, on en accueille pas autant que voilà, l'extrême droite en fait voudrait le dire. Donc il y a des mensonges comme ça, il y a des trucs à démonter. Maintenant, si on veut vraiment s'attaquer à la question de l'immigration, d'ailleurs, de quelle immigration on parle, qu'est-ce qui crée cette immigration et quelles sont les voies et recours qu'on peut mettre en place pour, non pas en fait arrêter l'immigration, mais plutôt faire en sorte que les personnes qui risquent leur vie à la traversée du désert, du Sahel, du Sahara et la traversée méditerranéenne, en fait, puissent en fait cesser en fait de livrer leur vie au danger, mais au contraire qu'ils puissent envisager de se développer dans leur propre pays. En fait, ce qui fixe une population, la sédentarisation, c'est toujours en lien avec les possibilités de se développer sur le plan économique. Ça a été dit précédemment, effectivement, c'est une réalité, même si je pense que c'est pas forcément la question de l'impérialisme, mais plutôt la question
de... On ne va pas développer le facteur économique sans développer le concept de l'impérialisme. En fait, c'est tout simplement le stade développé du capitalisme.
L'impérialisme, pour moi, c'est plus autant des grands empires. Aujourd'hui, c'est plus une forme de néolibéralisme.
Un nouvel impérialisme inhérent à la séquence
historique. Après, sur les termes, on n'est pas forcément d'accord. Mais l'expression, malheureusement, quand tu as 1% des richesses mondiales qui se retrouvent entre les mains d'une sorte de caste, ça crée des problèmes. Et en plus, faut quand même se rappeler que les pays, en tout cas si on parle de l'Afrique, ce sont des pays qui étaient des anciennes colonies, dans lesquelles il s'est instauré malheureusement un pouvoir qui ne redistribue pas forcément les richesses. Et c'est ça le problème aussi de l'immigration. Or nous, quand on en parle, on va jamais sur ce terrain-là.
L'impérialisme est un concept qui a pris corps après 1870, mais toujours d'actualité, évidemment.
Radouane, en peu de temps, désolé.
François Héran demeure et reste en bonne position dans la liste des donneurs de leçons, des démagogues officiels. Comme en son habitude, François Héran, pour rappel, François Héran, c'est une personne qui, au moment de l'assassinat de Samuel Paty, cherchait des excuses aux différentes entraves à la laïcité que Samuel Paty aurait pu causer. Là, encore une fois, mais je crois que c'est Rudy qui l'a dit, c'est pour satisfaire un camp en particulier, un camp politique, c'est pour des raisons, c'est du clientélisme électoral, ni plus ni moins. Et François Héran démontre encore une fois ce qu'il fait à son habitude.
Merci monsieur, on retrouve pour clore cette émission. Oui, ça fait pchit, comme vous le dites. Pour clore cette émission, et vous le savez, on retrouve enfin, effectivement, les billets d'humeur et le quoi de neuf. Allez, c'est parti.
Les informés, le quoi de neuf.
Et c'est le premier de la saison. Ah, franchement, quelle fierté, le premier de la saison. Wow. C'est avec Docteur Majid Seoussine. Bonjour docteur.
Bonjour mon cher Adil, comment allez-vous?
Quel plaisir de retrouver votre voix, aïe aïe aïe, de docteur.
Partagé.
Bon mon cher docteur, je vous lance, allez-y, vous êtes chaud, bouillant, je le sens, pour commenter toujours, comme à votre habitude, le pudding d'actualité.
Bah écoutez mon cher Adil, je suis content de vous retrouver, néanmoins cela veut dire qu'il va falloir que je me remette à travailler, que chaque mardi soir, voire chaque mercredi matin, la dernière minute.
Moi qui pensais que c'était un talent inné.
Ouais c'est ça, moi aussi je pensais que c'était un talent inné, ils viennent tout casser là.
Oui, je me torture les méninges pour essayer de trouver quelque chose d'intéressant à dire, ce qui n'est pas toujours évident.
Vous avez deux minutes, allez-y.
Trouver la fine phrase, l'accroche percutante.
Mais il démontre que c'est un fin travailleur.
Oui.
Ah, un crétin besogneux même.
Oui.
Non. C'est tout un art, ça.
Oui. Laissez-le, parce qu'on va rendre l'antenne après, il faut le laisser. Hein. Moi, je dois rendre l'antenne à 53, les amis. Hein.
Il faut surtout essayer d'éviter le raccourci et la faiblesse d'esprit, car nous ne sommes pas chez Pascal Pro et aux informés.
Ouais, ouais,
cette
merci.
Semaine, mon cher Adil, je voulais vous parler d'un problème national qui menace la patrie. Je ne parle pas bien sûr de l'inflation, ni de l'immigration et de ces hordes de pilleurs venus de partout qui en veulent à nos caisses d'allocations familiales, à nos RSA et à nos femmes, bien sûr. Non, mon cher, ni même de la guerre en Ukraine, dont on va bientôt se désintéresser.
Oui.
Je n'évoquerai pas le nettoyage ethnique qui a lieu dans le Karabakh, qui émeut à juste titre les hautes autorités françaises, alors que les Palestiniens le subissent depuis des années dans l'indifférence la plus absolue. Non, vous l'avez bien compris, notre problème, c'est les punaises. Ce petit insecte de 5 mm qui suce notre sang, comme un capitaliste suce les profits, est devenu un sujet de panique nationale. La France est-elle tombée aussi bas pour qu'elle perde la tête devant un parasite que le DDT avait bien entendu fait disparaître, mais qui malheureusement a réapparu. Voilà que même Mme Borne s'en occupe, pour éviter peut-être d'ailleurs qu'il y a des punaises à Matignon, la question se pose. En tout cas, on n'a pas réussi à régler le problème de la malbouffe et de l'obésité, et je ne vois pas comment on va arriver à régler celui des punaises. Et comme j'espère que les Jeux Olympiques seront un échec, je m'en réjouis. Ça nous évitera encore quelques années d'Hidalgo.
C'est vrai que c'est pas rassurant, hein, les punaises de lit, les Jeux Olympiques.
En tout cas, nous venons de récupérer le prix Nobel de physique une nouvelle fois. C'est à signaler dans ce pays où désormais on a place plus de fierté pour nos influenceurs que pour nos savants. Bravo donc à Annie Le Huillier et Pierre Agostini. Ils excellent comme Tanoudji autrefois dans ce champ de la physique qu'on appelle l'optique. Et c'est d'autant plus méritoire dans un pays où l'on manque de vision. On devrait d'ailleurs leur donner les clés d'Élysée qui peut-être verraient les choses changer dans ce cas. Dans ceux qui ont manqué de vision, je voudrais saluer les socialistes qui en ont singulièrement manqué en excluant notre camarade Akli Mellouli,
qui avait milité
35 ans chez eux et qui s'est retrouvé exclu 10 jours avant d'être élu sénateur. Ils n'auront probablement pas le prochain prix Nobel d'optique.
Oui. Bravo, hein. Franchement, on peut l'applaudir.
Bravo.
Vous êtes bon. Non, mais franchement, je dois dire,
grandiose.
Hein, vous avez vu, même Radouane Courac, le journaliste d'Opinion Internationale, dit, non mais il sort d'où le docteur là, il sort d'où?
Bien sûr.
Ouais. Sortez d'où là, sérieux, docteur là. Ça va, tout va bien pour vous. Eh bien, écoutez.
Deux ordonnances.
Bon. Eh bien, merci docteur. À la semaine prochaine avec autant de plaisir.
À la semaine prochaine avec joie. Portez-vous bien.
Merci à vous. Merci à Rudy Kazi.
Merci, cher Adil.
Merci à Radouane Courac.
Merci à Adil.
Merci à Jimmy Dalidou.
Merci à tous.
Merci à vous. Merci à Solala, la réalisation. Jimmy. Bilal Lenman, 20h, 21h. 21h, c'est Vanessa. Quant à moi, à demain, avec autant de plaisir. Mais surtout, qu'est-ce qu'on fait?
On ne lâche rien.
On ne lâche rien, les amis. Hein. Allez.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.